Vous écoutez RFI, les 8h30 à Paris, 6h30 en temps universel. Et tout de suite, on retrouve Nemo en piste pour le journal. Bonjour Nemo.
Bonjour Andréane, bonjour à tous. Maxime Prévost en République démocratique du Congo, le chef de la diplomatie belge, doit y rencontrer le président Félix Tshisekedi. Bruxelles, qui entend pousser à des actions concrètes quant au conflit dans l'est du pays, demande aux partis en conflit de s'attaquer aux racines de la guerre et réitère sa demande de respect de l'intégrité territoriale de chaque État. La RDC ou l'EPR dénonce un acte arbitraire. Des hommes en armes occupent depuis quelques jours la ferme du président du parti d'opposition, non loin de Lubumbashi. Près de 2000 prisonniers pour environ 300 places. Les conditions de détention dans l'une des prisons de Bangui inquiètent la société civile, mais aussi l'église catholique centrafricaine qui a organisé une messe. Eux ont une petite semaine désormais pour quitter Djibouti. Les autorités lancent un ultimatum aux personnes en situation irrégulière, en grande majorité éthiopienne. On se penche ensuite sur le rôle qu'aura à jouer la commission mixte franco-malgache annoncée la semaine dernière par Emmanuel Macron. Et puis le dossier de ce journal consacré à la numérisation des données de santé sur le continent. L'Institut Pasteur de Dakar a récemment accueilli des délégations africaines pour faire un point sur les avancées de chacune. Le ministre belge des Affaires étrangères poursuit sa tournée dans la région des Grands Lacs après être passé par l'Ouganda et le Burundi. Maxime Prévost est arrivé hier soir dimanche en République démocratique du Congo. Plusieurs sujets sur la table, entre désescalade entre la RDC et le Rwanda, coopération bilatérale ou encore réforme de l'armée congolaise. Bruxelles entend bien renforcer son appui pour la paix. RFI Kinshasa, Pascal Moulégua.
Maxime Prévost salue les récents signes d'apaisement entre Kinshasa et Kigali, la déclaration des principes signée vendredi à Washington et les communiqués conjoints entre Kinshasa et l'AFC M23. Deux étapes qui affichent l'ambition des belligérants de parvenir à une trêve. Mais au-delà de symboles, Bruxelles veut pousser à une action plus concrète et demande aux partis en conflit de s'attaquer aux racines de la guerre dans l'Est de la RDC. Pour les chefs de la diplomatie belge, il y a deux priorités. D'abord, le respect absolu de l'intégrité territoriale de chaque État et la fin des soutiens étrangers aux groupes armés. À cela s'ajoute la construction d'une économie transfrontalière formelle, encadrée et qui puisse apaiser les tensions autour des ressources. Ces axes de réflexion ne sont pas nouveaux mais trouvent un écho particulier alors que les efforts diplomatiques reprennent après deux mois d'escalade sur le terrain. Autre sujet sur la table est la coopération militaire entre Bruxelles et Kinshasa, relancée en 2022 après 5 années de suspension. Maxime Prévost devrait défendre l'idée d'une réforme de l'armée congolaise. Pascal Moulégua, Kinshasa, RFI.
Maxime Prévost et Félix Tshisekedi, le président congolais, qui doivent se rencontrer ce lundi. La RDC encore et l'entourage de l'opposant Moïse Katumbi qui dénonce une manœuvre d'intimidation. 3 jours désormais que des hommes en armes occupent sa ferme en périphérie de Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Des proches qui assurent qu'aucune violence n'a eu lieu, certes, mais que ces hommes n'ont pas non plus présenté de documents officiels pour justifier leur présence. La réaction d'Hervé Diakiesse, porte-parole du parti Ensemble pour la République de Moïse Katumbi.
Nous assistons à un acte arbitraire, c'est que des individus sans titre ni droit ont envahi la ferme Futuka de Moïse Katumbi, où il y entretient beaucoup d'activités agro-pastorales et où est hébergée aussi l'école de formation de jeunes de l'équipe de Mazembe. Ces individus s'y sont installés sur les lieux et n'ont produit aucun document juridique justifiant cette violation de domicile. Et actuellement, il est très clair que le régime a tenté son histoire de débauchage via le pseudo-gouvernement d'Union nationale, alors que les enjeux sont des lois beaucoup plus graves et que Moïse Katumbi a adhéré très clairement à l'initiative des évêques de la Synco et de l'ECC. Moïse Katumbi est un homme de paix, c'est pas un homme de violence, et il n'empêche qu'il faut aussi reconnaître que ce régime est en train de mener une sorte de manœuvre d'intimidation.
Hervé Diakiesse, porte-parole du parti Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, avec Patient Ligodi. En Centrafrique, les inquiétudes des organisations des droits de l'homme, mais aussi de l'Église catholique quant aux conditions de détention, notamment dans la prison centrale de Garagba, dans le 7e arrondissement de Bangui, qui accueille près de 10 fois plus de prisonniers que prévu. Près de 2000 personnes y sont détenues, alors que ses murs peuvent en contenir environ 300. Sur place, une messe placée sous le signe de l'espoir a été été récemment organisée et notre correspondant Rolf-Steph Demialeux y a assisté.
La messe se déroule à ciel ouvert dans la concession de la maison carcérale de Ngaragba. Un hôtel est dressé au centre et près d'un millier de prisonniers prennent place sur des bancs. Soutenir, écouter, conseiller et guider, Salif, un ancien prisonnier, fait partie de l'équipe.
J'ai vécu des périodes sombres dans les cellules de cette prison. La surpopulation nous obligeait à nous entasser comme des animaux. L'accès aux soins était difficile, les repas étaient rares, malsains.
Le cardinal Dieudonné Zapalainga a axé son homélie sur la prise de conscience, l'amour du prochain et la nécessité de redevenir un bon citoyen.
La prison de Ngaragba est très surpeuplée parce que la majorité des détenus y passent des années sans être jugés. La justice doit faire son travail afin de libérer ceux qui sont injustement arrêtés. Je m'adresse aussi à vous, mes frères détenus. Le jour où Dieu vous accordera la liberté, ne commettez aucune infraction qui vous ramènera à Ngaragba.
Pour pallier ce problème, le ministre de la Justice, Arnaud Dubaï Abazen, dévoile les projets du gouvernement visant à désengorger les prisons.
Nous travaillons à des réformes de fond, notamment en matière de détention préventive, de modernisation des procédures judiciaires. Notre vision est celle d'un système pénitentiaire plus moderne, plus humain, afin de faciliter le traitement des dossiers des compatriotes en détention préventive, conformément aux dispositions du Code de procédure pénale.
L'Église catholique a également offert un don constitué de kits vivriers, de médicaments et de vêtements aux prisonniers. Rolf-Steph Demialeux, Bangui. RFI.
À Djibouti, les personnes en situation irrégulière ont jusqu'à ce samedi le 3 mai pour quitter le pays avant de pouvoir éventuellement revenir en cas de régularisation. Ultimatum lancé par le ministère de l'Intérieur. Ceux qui ne coopèrent pas risquent de se voir renvoyer de force aux frontières ou de s'exposer à des amendes, voire à de la prison. Clotilde Hazard.
Le ministère de l'Intérieur décrit des flux incontrôlables de migrants qui mettent en danger le pays. Sur l'année 2024, près de 200 000 personnes sont passées sur les routes de Djibouti, un nombre qui a presque doublé en un an. Certaines restent plus longtemps dans le pays pour travailler afin de pouvoir payer les passeurs et traverser la mer vers le Yémen puis l'Arabie Saoudite. Mais d'autres s'installent et forment une importante communauté sans permis de séjour légal. Ces immigrés sont en grande majorité des Éthiopiens et l'ambassade d'Éthiopie à Djibouti estime qu'ils sont 100 000 ressortissants concernés par l'ultimatum. Ils doivent à présent quitter le territoire par eux-mêmes pour ensuite régulariser leur situation, sous peine d'être expulsé manu militari par les autorités ou être exposé à des amendes, voire de la prison. Beaucoup d'entre eux travaillent et occupent des emplois essentiellement domestiques, de femmes de ménage par exemple ou de gardiens, et certains sont même propriétaires de logements ou de commerces et ont leurs enfants à l'école. Aucun délai supplémentaire n'a été accordé, mais les autorités djiboutiennes ont déclaré que certaines exceptions seraient faites au cas par cas, en particulier pour les personnes vulnérables.
Antananarivo 96 FM.
Un troisième pays du continent concerné par la création d'une commission mixte avec la France. Après le Cameroun et l'Algérie, le président français Emmanuel Macron a annoncé la mise en place de cette démarche pour Madagascar, où il était en visite d'État la semaine dernière. Une annonce attendue de longue date par nombre d'historiens et plus particulièrement depuis fin janvier, quand un réseau d'une dizaine d'entre eux, malgaches comme français, s'est formé spontanément. Satisfaction certaine donc pour ces spécialistes de l'histoire commune des deux pays, même si on ne connaît pas encore les membres qui composeront cette commission binationale. Ils seront en tout cas chargés de se concentrer sur la période coloniale et notamment sur cet épisode insurrectionnel de 1947, largement réprimé dans le sang. Les enjeux et attentes du monde universitaire avec Pauline Le Troquier à Antananarivo.
Une telle commission annonce des mois d'introspection sur l'un des épisodes les plus douloureux de la colonisation de l'île. Il faudra, pour cela, ouvrir les archives classifiées par la France, mais aussi traiter celles encore inexploitées, faute de moyens. Samuel Sanchez, historien français, spécialiste de Madagascar, espère que la commission serve de tremplin à une nouvelle génération de chercheurs prêts à s'emparer des pans encore méconnus de 47.
La recherche, elle s'est un peu focalisée sur la comptabilité du nombre de morts, notamment, hein, qui a été énorme. Et je pense qu'il convient de dépasser comprendre l'impact aussi à long terme de économique. Tout l'Est de Madagascar a subi une grave crise de production agricole.
Pour l'historien malgache Denis-Alexandre Lainéric, le temps est venu de faire le bilan de 1947. Seule condition, dit-il, pour apaiser une mémoire restée à vif à Madagascar, celle de 21 mois de répression aveugle marquée par des épisodes de violence inouïe.
On a mis dans un avion des insurgés et on les a jetés du haut de de l'avion pour marquer les esprits des insurgés. Il faut vraiment qu'on arrive à évaluer cet impact, dépasser cette période coloniale-là et prendre en main, quelque part, notre destin.
Pour le spécialiste, cet effort de vérité doit aussi permettre de reconnaître 1947 comme une crise politique interne. La révolte a profondément divisé les Malgaches eux-mêmes, une réalité occultée du récit national depuis l'indépendance de l'île. Pauline Troquier, Antananarive, RFI.
Allez, le dossier de ce journal sur l'un des défis à venir pour de nombreux pays du continent. Digitaliser, numériser tout ce qui peut l'être finalement, notamment dans le domaine de la santé. Tous les pays africains n'en sont pas au même stade. C'est en ce sens que des représentants de plusieurs d'entre eux, des Rwandais, des Éthiopiens, des Maliens ou encore des Sénégalais, étaient réunis récemment à l'Institut Pasteur de Dakar pour un état des lieux des avancées et pour partager leur expérience sur la numérisation de ces données. Gwendal Lavina y a assisté pour RFI.
Les progrès ces dernières années dans le domaine sont immenses, insiste le docteur Serge Bataliak du bureau régional de l'OMS pour l'Afrique.
Beaucoup de mécanismes se sont mis en place, notamment de télémédecine, de téléconsultation. Vous êtes dans un village éloigné, mais vous êtes capable de bénéficier des soins de cardiologie, des soins très pointus, même étant à distance. Un patient qui se retrouve dans une ville, un autre soignant peut avoir accès au dossier et donc apporter les processus cliniques qu'il faut pour améliorer la santé de la personne.
Mais ce processus ne bénéficie pas seulement aux patients, explique le docteur Abdourahman Sow, directeur de la santé publique à l'Institut Pasteur de Dakar.
Cette digitalisation aujourd'hui constitue une opportunité pour renforcer le système de santé, mais aussi c'est un outil important de planification sanitaire qui nous permet vraiment de baser nos décisions sur des données probantes.
Parmi les pionniers sur le continent, le Rwanda, dès le début des années 2000 et sans trop de moyens, Jean-Marie Vianney du département de l'informatique de santé de l'Université du Rwanda.
Dans mon pays, on a commencé avec ce qu'on appelle open source. Les applications dont le source code est gratuite, avec un serveur qui peut coûter 10 000 dollars américains, une institution publique ou privée peut commencer avec ça.
Au Sénégal, les autorités espèrent faire un modèle de leur programme de digitalisation du système de santé tout juste présenté et dont le coût est estimé à 30 milliards de francs CFA. Gwendal Lavina, Dakar, RFI.
Et dans un domaine comme celui de la santé, vous l'avez entendu, les enjeux sont nombreux. L'une des inquiétudes soulevées par certains États, c'est la protection des données et la souveraineté des pays sur ces informations. Pourtant, ce matin, le professeur Cheikh Oumar Bagayoko, directeur du Centre d'innovation et de santé digitale à l'Université des sciences techniques et technologique de Bamako, nous dit qu'il serait plus intéressant que les pays se concentrent sur le partage de ces données entre établissements de santé et universités, une manière de mieux anticiper des épidémies ou de mieux y répondre.
C'est le plus grand défi pour qu'on évite un certain niveau de fragmentation, parce que les pays qui sont développés ont atteint ce niveau, mais sont arrivés à mettre en place des cadres d'interopérabilité et ont plus de moyens que nous. Donc au départ, le terrain est plus ou moins vierge. Il faut mettre en place des fondamentaux. Et parmi ces fondamentaux, je pense qu'il y a le cadre d'interopérabilité du système d'information de santé qui va permettre de définir les règles d'échange des données que tous les systèmes doivent utiliser pour permettre une meilleure prise en charge du patient, mais le pilotage de la santé publique, quel qu'en soit le niveau de la pyramide sanitaire. Alors que ce qu'on fait aujourd'hui, on est en train de développer des services numériques de plus en plus. Le soubassement n'est pas là. Un de ces soubassements, par exemple, c'est l'identifiant national de santé. Sans identifiant national de santé, il est très difficile de dire qu'on va avoir les données qui sont collectées de façon cohérente, parce qu'on va avoir des redondances des données en fonction du déplacement du patient chez un fournisseur de services à un autre ou d'un niveau de la pyramide sanitaire à un autre.
Le professeur Cheikh Oumar Bagayoko avec Gwendal Lavina qui signe le dossier de ce journal depuis Dakar. C'est à vous, Andréane Mellard.